Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Depuis dimanche dernier, nous avons commencé une nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut bien ? Cela peut bien nous étonner, mais normalement, l'année nouvelle commence le 1er janvier et pas avec le premier dimanche de l'Avent. Qu'est-ce que ça veut bien dire cela ? Eh bien oui, voyez, l'Église a aussi son année. Le 1er janvier, c'est le début de l'année qu'on appelle l'année civile. Mais il y a aussi l'année ecclésiastique, l'année de l'Église. Elle commence le premier dimanche de l'Avent. Et pourquoi elle ne commencerait pas en même temps? Pourquoi elle ne commencerait pas le 1er janvier? Ce serait beaucoup plus simple. Pourquoi compliquer? Eh bien, parce que l'Église, son souci, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, elle fête les événements de Jésus et elle organise toute son année en fonction de Jésus-Christ. Jésus, c'est le centre de l'histoire, c'est le centre du monde. Et pourquoi ? Elle fait commencer son année le premier dimanche de l'Avent. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que Jésus n'est pas venu tout d'un coup. Il y a eu tout un temps de préparation à la venue de Jésus. Oui. Combien il y a eu d'années depuis Adam et Ève jusqu'à Jésus, à peu près? Il y a eu 4000 ans. C'est pas rien, 4000 ans. Depuis Jésus jusqu'à maintenant, il y a bientôt 2000 ans. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Avant la venue de Jésus, il y a eu qui? Il y a eu Moïse, il y a eu Noé, il y a eu les prophètes, Élie, le prophète Daniel, etc. Il y a eu le grand roi David, le roi Salomon, et tout un tas de rois. Voilà, tous ces personnages font partie de cette période qu'on appelle l'Ancien Testament. Elle a duré 4000 ans. Et d'ailleurs, quand on compte les années avant la venue de Jésus, on compte les années en reculant pour arriver à Jésus. C'est le centre de tout Jésus. Le centre de l'histoire, le centre du monde. Et à partir de Jésus, on compte alors à l'endroit, en progressant. Qu'est-ce qui a déterminé les fêtes que nous avons pendant l'année ecclésiastique, pendant l'année de l'Église? Eh bien, c'est encore Jésus. L'Église veut nous faire admirer les deux grands mystères de miséricorde de Dieu envers nous. Et quels sont ces deux grands mystères, vous savez, hein? L'incarnation et la rédemption. Eh bien, ce sont les deux plus grandes fêtes de l'année. Noël, pour le mystère de l'incarnation, et Pâques, pour le mystère de la rédemption. Mais ces deux fêtes, elles sont entourées de périodes. Il y a une période qui nous prépare à ces deux fêtes, il y a une période qui nous fait célébrer ces deux fêtes, puis il y a une période qui suit ces deux fêtes. Pour la fête de Noël, la période qui prépare la fête de Noël, c'est le temps de l'Avent, dans lequel nous sommes entrés à partir de dimanche passé. Le temps de l'Avent, les ornements sont violets. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un temps de pénitence et c'est un temps de grand désir. Pourquoi faire pénitence? Pour mieux disposer nos âmes à la venue de Jésus. Vous savez que Jésus a été annoncé par Saint Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il faisait Saint Jean-Baptiste? Il parcourait la Palestine en disant « Faites pénitence, préparez vos cœurs pour la venue du Messie. » Voilà, alors c'est la même chose que nous fait faire l'Église. Nous fait faire pénitence. Voilà, on fait des petits sacrifices, des petits renoncements. Et plus on en fera, plus on aura une grâce précieuse le jour de Noël. Et puis, pour la fête de Pâques aussi, il y a un temps de préparation. Un temps éloigné, que l'on appelle la Septuagésime. Déjà là, les couleurs seront de nouveau violettes. Puis après, il y aura un temps plus austère, plus sévère, qui durera 40 jours, c'est le carême. C'est un temps aussi de pénitence plus marqué que le temps de l'Avent. Puis ensuite, un temps encore beaucoup plus triste, c'est le temps de la Passion. Alors ça, c'est le temps qui nous prépare juste à la fête de Pâques, qui nous rappelle ce que Jésus a souffert pour nous racheter. Vous voyez, pour ce mystère de la rédemption. Et après viendra la belle fête de Pâques, qui nous rappelle la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité, il a vaincu. Alors c'est une grande joie. Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons si nous sommes attachés à Jésus. Voilà. Et puis, après, il y a le temps, pour ces deux fêtes, il y a un temps de continuation. Pour Noël, il y a le temps de l'Épiphanie, qui nous rappelle la venue des rois mages, qui sont venus adorer Jésus à la crèche. Et pour Pâques aussi, bien, il y a le temps après la Pentecôte. Voilà. Tous les dimanches que nous avons eus jusqu'à il y a 15 jours, à peu près. Voilà, c'est le temps après Pâques. Voilà comment l'Église organise son temps. Eh bien, nous devons aussi faire attention à cela pour mieux profiter de ces fêtes. Voyez, parce que dans chaque période, il y a des grâces que l'Église veut nous obtenir. Voilà. Pendant ce temps de l'Avent, comme je vous le disais, c'est un temps de pénitence et de grand désir. Vous savez, si on se rend compte, hein, mettons-nous à la place d'Adam et Ève. Quel a dû être leur état d'esprit quand Adam et Ève ont commis le péché? Adam et Ève qui le soir, le bon Dieu venait leur parler, tous les soirs, la brise du soir. Ça devait être agréable. Ils étaient amis de Dieu. Dieu les aimait, et eux aimaient Dieu. Et puis tout d'un coup, ils ont commis ce péché, ils ont volé, ils ont pris le fruit, ils ont désobéi à Dieu. Alors leur âme était changée. Hein, c'est comme vous, quand vous avez fait quelque chose de mal, votre âme elle n'est plus la même. Vous êtes tout gêné et vous avez peur qu'on sache que vous avez mal agi. Voyez, eh bien, imaginez Adam et Ève qui étaient les amis de Dieu et voilà qu'ils ont offensé leur grand ami. Ils ont offensé Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés dans le paradis terrestre, ils se sont cachés. Et le soir, Dieu venait pour parler avec eux. Dieu appelait Adam. Où êtes-vous? Il y en a eu, on s'est caché. Pourquoi vous êtes caché? Ils avaient la conscience qui leur reprochait. Hein? Ils ont mal agi. Ils avaient désobéi à Dieu. Ils savaient qu'ils avaient offensé le bon Dieu. Et pour eux, c'était dramatique. Maintenant, on n'est plus les amis du bon Dieu. C'est fini. Le bon Dieu ne viendra plus nous parler tous les soirs comme il le faisait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est terrible, hein? Alors on est perdu. Le bon Dieu nous avait mis dans ce beau paradis terrestre pour un jour nous prendre au ciel. Maintenant qu'on n'est plus les amis de Dieu, il ne pourra plus nous prendre au ciel. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est terrible, terrible. Imaginez ce qu'ont dû penser Adam et Ève, les souffrances qu'ils ont endurées. Voyez? Et voilà que le bon Dieu leur dit, eh bien, ne vous découragez pas, je vous enverrai un Messie. Je vous enverrai quelqu'un qui viendra réparer ce que vous avez gâté. Oh, mais vous pensez que ça c'était une bonne nouvelle pour Adam et Ève? Comment vous, mon Dieu, on vous a offensé, on vous a fait de la peine, et puis maintenant, vous nous faites encore un cadeau. Vous nous dites que quelqu'un viendra pour nous délivrer de cette triste situation dans laquelle nous nous sommes mis. Vous enverrez quelqu'un qui nous ouvrira de nouveau la porte du ciel. Mais quel bonheur! Alors vous pensez que dans le cœur d'Adam et Ève, ça a été une grande joie. Ça y est, on va pouvoir de nouveau aller au ciel. Oh, mais que le bon Dieu est bon! Mais quand est-ce qu'il viendra, celui que vous nous avez annoncé? Ah, il viendra quand je le déciderai. Alors, bien sûr, Adam et Ève, ils ont dit ça à leurs enfants. Ils leur expliquaient tout ce qui s'était passé. Puis alors, ils leur disaient, mais faut pas vous décourager. C'est sûr, c'est terrible ce qu'on a fait. Mais un jour viendra quelqu'un. Et puis, ça se disait, de génération en génération. Et puis, il y a eu des prophètes auxquels le bon Dieu disait, il donnait des renseignements. Oui, celui qui viendra, eh bien, il naîtra dans une crèche. Comment? Oui, il naîtra dans une crèche. Mais comment est-ce possible? Ah, c'est les mystères de Dieu. Bon. Alors, si c'est le bon Dieu qui dit, on croit, même si on ne comprend pas toujours, même si on est étonné, on croit quand même. Alors, il se réjouissait. Il disait, oh, mais qu'on aimerait bien vivre au jour où le Messie viendrait. Que sont heureux ces gens qui seront là lorsque le Messie naîtra. Ah, si on était à leur place, eh bien on irait tous auprès de la crèche. Tout le monde se disait cela, ceux qui aimaient le bon Dieu, ceux qui avaient compris la bonté du bon Dieu. Alors l'Église veut nous essayer de nous faire comprendre ça pendant ce temps de l'Avent, nous dire, mais préparez-vous à célébrer cette naissance de Jésus que l'on rappellera à la fête de Noël. La Noël sera l'anniversaire de la naissance de Jésus. Ce Jésus que les anciens ont tant désiré voir, ont tant attendu, ils en parlaient entre eux. Alors quand les prophètes recevaient des lumières du bon Dieu au sujet du Messie, ils écrivaient un petit peu, ils en parlaient autour d'eux. Alors tout le monde se réjouissait, tous ceux qui aimaient le bon Dieu se réjouissaient. Vous voyez ? Ils composaient des cantiques, etc., pour la venue de Jésus. Eh bien voilà, c'est ça que veut nous faire vivre l'Église. Vous voyez ? Nous rappeler et nous faire avoir ces grands désirs qu'ont eu les patriarches, les prophètes. Vous voyez ? Afin que le jour de la fête de Noël, nous ayons cette joie tous d'aller à la crèche et de remercier Jésus. Nous avons une chance que les anciens n'ont pas eue. C'est que ce Jésus, nous pouvons le recevoir dans notre petit cœur par la communion. Chaque fois que vous recevez la communion, la petite hostie, c'est ce Jésus qu'on désirait tant recevoir, qu'on désirait tant voir les prophètes, les patriarches, tous ceux de l'Ancien Testament. Eh bien, nous le recevons dans la petite hostie. Quel bonheur c'est pour nous. Voyez. Alors aujourd'hui, offrez une prière fervente à Jésus. Quand il viendra dans votre cœur, vous lui direz un grand merci déjà. Vous toujours dire un merci à Jésus. On ne comprend pas assez ce que c'est que de recevoir une hostie. C'est le plus grand cadeau qui puisse être fait. Si on devait nous offrir des châteaux, ou des grands domaines, des grands royaumes, on nous dirait, voilà, tu peux choisir entre un royaume, un grand royaume avec des châteaux et tout organisé, ou bien la petite hostie. Qu'est-ce que nous dirions? Il faudrait dire, ben non, on préfère la petite hostie. Et puis tant pis pour ces royaumes. Parce que la petite hostie, c'est plus que tous ces royaumes, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Et d'être ami avec le bon Dieu, c'est beaucoup plus que tout le reste. Tout le reste, c'est rien du tout, si on n'est pas ami avec le bon Dieu. Et Adam et Ève avaient bien compris cela. Ils se sont rendu compte ce que c'était d'avoir perdu l'amitié du bon Dieu. Voilà. Alors il nous faut nous préparer à cette fête de Noël en faisant des petites pénitences, des petits sacrifices. Tous les jours, dès qu'une occasion se présente, faites un petit sacrifice par amour pour Jésus. Oui. Autrefois, vous savez ce que faisaient certaines mamans de famille? Elles prenaient le petit berceau de l'enfant Jésus, vide, en bois, et tous les soirs, elle avait acheté une petite pelote de fil d'or, un fil doré. Et tous les soirs, quand les enfants avaient fait des sacrifices, elle coupait pour chaque sacrifice un petit fil d'or, puis elle mettait dans le berceau. Eh bien, ça faisait la paille du petit enfant, une paille d'or, pour la venue à Noël. Alors, dans les familles où il y avait beaucoup de sacrifices, à Noël, il y avait beaucoup de petits fils d'or, et on posait l'enfant Jésus sur ces fils d'or qui rappelaient tous les sacrifices que les enfants avaient faits pendant le temps de l'Avent. Voyez ? Alors faites des sacrifices, ça servira pour accueillir Jésus dans le petit berceau à Noël. Et nous allons prier, bien sûr, la Sainte Vierge, à elle, qui a préparé la crèche, et qui était toute prête pour la venue de Jésus. Alors nous allons lui demander de bien passer ce temps de l'Avent, pour que quand Jésus vienne à Noël, il trouve un petit berceau rempli de fils d'or que nous avons préparé par nos sacrifices. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, dans 3 jours, ce sera la fête de Noël. Et à lire dans vos yeux, vous n'avez pas l'air très mécontent. Au contraire, vous vous réjouissez de cette fête. Pourquoi ? Pourquoi on est heureux de la fête de Noël et beaucoup de gens se réjouissent de célébrer cette fête de Noël? Peut-être parce que vous direz c'est le temps des cadeaux, alors ça fait bien plaisir, c'est vrai. On a aussi des vacances, ça c'est appréciable aussi, hein, ça fait du bien. Après avoir bien travaillé pendant 3 mois, quelques jours de vacances, c'est bienvenu. Et pourquoi on fait des cadeaux à Noël? Quelle drôle d'idée! Eh bien, parce que Noël nous rappelle le plus riche cadeau que les hommes n'ont jamais reçu. Et qu'est-ce que ce plus riche cadeau? Est-ce que c'est un diamant gros comme un ballon de football? Un diamant gros comme un ballon de football aurait une très grande valeur. On n'en a jamais vu des si gros que ça. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est peut-être parce qu'un jour, il est descendu, au lieu des flocons de neige, des flocons d'or sur toute la terre? Eh bien, si c'était le cas, tout le monde aurait de l'or en masse, mais l'or aurait perdu sa valeur. Alors ça n'aurait pas une grande valeur non plus. Quel est donc ce plus riche cadeau? Eh bien, vous le savez, c'est Jésus. Pourquoi Jésus, c'est le plus riche cadeau? Qu'est-ce que ça fait un cadeau? Un cadeau, ça fait bien plaisir. Ça nous donne un peu de bonheur. Eh oui, chaque année, vous avez eu une grande joie, un grand plaisir, lorsque vous avez reçu des petits cadeaux à Noël. Mais ces cadeaux-là, ça n'a pas duré longtemps. Le bonheur n'a pas duré bien longtemps. Quelques semaines, quelques mois, ça dépend des cadeaux. Et puis maintenant, les cadeaux de Noël passés sont déjà un peu oubliés. Oui. Et c'est vrai, toutes les choses sur la terre nous donnent un peu de bonheur. Tous les cadeaux qu'on peut recevoir nous donnent un peu de bonheur, mais pas bien longtemps. Même un diamant gros comme un ballon de football, ça nous donnerait un grand bonheur, mais pas longtemps quand même. Et au bout d'un certain temps, on le mettrait dans un coin et on aurait beaucoup de soucis de ne pas se le faire voler. Voilà. Tandis que Jésus, c'est un riche cadeau parce qu'il nous procure un bonheur qui ne finira jamais, qui durera plus qu'une année, qui durera toujours, 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 toujours. On n'en aura jamais assez de Jésus. Mais pour qu'un cadeau produise un peu de bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouvrir. Si on met le cadeau, on remercie, merci bien, on met dans un placard et on l'oublie. Mais il ne nous a pas procuré beaucoup de bonheur, ce cadeau-là. On n'a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, pour que le cadeau nous procure du bonheur, il faut l'ouvrir, il faut s'intéresser à voir ce qu'il y a dedans. Et puis, voilà. C'est la même chose pour Jésus. Si on s'intéresse à Jésus, alors on comprendra de plus en plus qu'il est vraiment un cadeau d'un prix infini, d'un riche cadeau. Et plus on découvrira ce cadeau qu'est Jésus, plus on sera heureux et jamais on en aura assez. Et d'ailleurs, tous ces cadeaux que vous recevez ici sur la terre, même si vous recevez des grands cadeaux plus tard, des maisons peut-être, je ne sais pas, un jour, tout ça, on laissera ici-bas. On laissera, on ne prendra pas avec nous quand on partira de cette terre. Mais le cadeau qui nous est fait à Noël, ce riche cadeau qu'est Jésus, même après notre mort, on l'aura encore. Et encore, il nous donnera encore plus de joie qu'il nous a donné sur la terre. Voilà pourquoi nous faisons les cadeaux à Noël, pour nous rappeler ce beau cadeau, ce riche cadeau que le bon Dieu nous a donné à ce jour. Alors, préparons-nous à cette fête. Et puis, le jour de Noël, eh bien, tâchons de nous intéresser à ce cadeau que le bon Dieu nous a fait. Vous voyez, les parents vous font la crèche, partout, on fait des petites crèches pour nous rappeler cet événement. Mais vous me direz, Jésus, c'est un riche cadeau? Comment ça? Il est venu dans une crèche toute pauvre. Il n'a même pas eu une maison pour naître, même pas eu un petit lit. Une crèche en bois, avec de la paille que les bêtes mangent. Un riche cadeau, ça? Eh oui, parce qu'il nous apporte des trésors, les trésors surnaturels. Il nous ouvre la porte du ciel. Et le ciel, c'est justement où nous serons heureux pour toujours. Sans Jésus, on ne pouvait plus aller au ciel. Sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Et on ne pourra jamais avoir ce bonheur infini, ce bonheur éternel. Il faut que nous le comprenions bien. Alors, le jour de Noël, allez souvent devant la crèche. Allez vous mettre à genoux. Et puis vous direz, merci Jésus. Oh, merci d'être venu parmi nous sur la terre, d'être venu depuis le ciel pour nous apporter tous ces cadeaux, tous ces bienfaits. Noël, ce n'est pas la fête du Père Noël. Ça n'existe pas, le Père Noël. Voyez ? Non, Noël, c'est la venue de Jésus. La venue du Fils de Dieu sur la terre, pour nous combler de ses bienfaits et pour nous ouvrir le ciel. Alors, intéressons-nous à lui. Si nous faisons grand cas de ce cadeau, si nous nous intéressons à Jésus, eh bien, nous irons au ciel, si nous faisons ce que Jésus nous dit. Mais si nous ne faisons pas cas de ce cadeau, si nous laissons ça de côté, si nous ne nous occupons pas de Jésus, eh bien, nous n'irons pas au ciel et nous n'aurons pas le bonheur que peut nous procurer ce cadeau, que peut nous procurer Jésus. Alors, vous irez dire merci à Jésus quand vous irez devant la crèche le jour de Noël. Merci d'être venu sur la terre. Merci de nous ouvrir le ciel. Merci de nous avoir préparé une place au ciel. Ô mon Jésus, je veux m'attacher à vous pour toujours. Parce que si je suis attaché à vous, je suis sûr qu'un jour, je serai avec vous dans le ciel. Oui, vous direz cela. Et puis aussi, vous prierez spécialement la Sainte Vierge qui a été choisie pour être la maman de Jésus. C'est par elle que le bon Dieu a voulu nous donner ce cadeau. C'est pas la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge était agréable à Dieu. Et Jésus a un grand amour de sa maman. Et ce que la Sainte Vierge demande à Jésus, Jésus l'accorde. Vous vous rappelez le miracle que Jésus avait fait à Cana, hein? Qu'est-ce qu'il avait fait à Cana? Il avait changé l'eau en un délicieux vin pour tous les convives. Mais si Jésus a fait ce miracle, c'est à cause de la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge a demandé à Jésus de faire ce miracle. Eh bien, vous allez aussi faire une belle prière à la Sainte Vierge et demander à la Sainte Vierge, eh bien, qu'elle vous aide à mieux comprendre, à mieux connaître Jésus et à vous attacher toujours à Jésus. Voilà. Et sur la terre, vous serez déjà heureux si vous aimez Jésus. Vous verrez, vous aurez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y en a de ceux qui croient que le bonheur sur la terre, c'est d'avoir beaucoup de richesses, d'avoir des grands palais avec des robinets en or. Ils croient que c'est le vrai bonheur. Eh bien, il y en a de ceux qui ont ça et ils ne sont pas heureux. Pourtant, ils ont tout ça. Ils ont les honneurs, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qui leur passe par la tête, et ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Pourtant, ils ont tout ça. Eh bien, parce que ça n'obtient pas le vrai bonheur du cœur, le vrai bonheur de l'âme. C'est vraiment Jésus qui est notre vrai bonheur. Alors, vous demanderez à la Sainte Vierge qu'elle vous obtienne cette grâce de comprendre, d'apprécier ce beau cadeau du ciel, de vous réjouir. Un jour, il y avait une maîtresse qui avait demandé aux enfants à l'école « Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme cadeau à Noël ?» Alors, bien sûr, moi, j'aimerais recevoir un petit train avec beaucoup de wagons et des rails, bien sûr. Autrement, sans rails, qu'est-ce qu'on peut faire, le petit train sans rails, hein? Ça va pas bien. Avec des barrières pour faire passer les voitures, tout ça. Et moi, j'aimerais recevoir une poupée aux cheveux blonds, avec des yeux bleus. Voilà, j'aimerais bien recevoir ça pour Noël. Et puis moi, j'aimerais recevoir une voiture électrique qui avance toute seule. Formidable. Etc. Il y en avait des cadeaux. Des idées, ils en avaient tout plein. Et puis un petit enfant qui était là, qui disait rien. La maîtresse dit, mais toi, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau à Noël? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Oh, mademoiselle, j'aimerais recevoir Jésus. Il avait compris. Il avait compris que c'était le plus beau cadeau. Que les autres jouets, bien sûr, ça donne un peu de bonheur, mais au bout de quelque temps, on n'y fait plus attention. Tandis que Jésus, oui, on sera toujours heureux avec Jésus, sur la terre et encore beaucoup plus au ciel. Alors vous demanderez ça à Jésus, hein, vous le remercierez, vous lui demanderez de vous attacher toujours plus à lui, de le découvrir, de l'aimer plus, et puis à la Sainte Vierge aussi, vous ferez les mêmes demandes. À Saint Joseph aussi. Et puis aux bergers, les bergers qui ont eu cette grâce, un ange est venu leur annoncer la naissance de ce Messie. Eux, ils ont apprécié, ils sont partis à toute vitesse. Ils ont presque oublié leur chemise, leur manteau, là, tellement ils sont partis vite. Hein. Ils étaient pressés d'aller voir ce qui se passait. Ils ont pris un peu de provision avec, et ils étaient heureux. Mais Jésus était content. C'était des cœurs simples. Eux, ils avaient compris que toutes les choses sur la terre, bon. Tandis que ça, c'était le plus beau cadeau. Voilà, vous demanderez cela. Et vous offrirez votre petit cœur à Jésus. Voilà. Faites quelques sacrifices encore. Les sacrifices, c'est des fleurs que vous mettrez dans votre cœur et Jésus vient dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Chaque fois que vous communiez, pensez que c'est Noël pour vous, parce que c'est le même Jésus qui vient dans vos cœurs que celui qui est venu dans la crèche à Bethléem. C'est le même Jésus, différemment bien sûr, sous la forme de l'hostie, mais c'est le vrai Jésus avec son corps, son sang, son âme. Vous voyez ? Voilà, vous demanderez donc cette... Vous ferez ces belles prières à la crèche, ne l'oubliez pas, et Jésus vous récompensera par les grâces et vous fera connaître davantage qui il est. Vous découvrirez le vrai bonheur ici-bas, qui est une préparation à ce bonheur dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes toujours dans ce temps de carême. Pourquoi ce temps de carême ? Eh bien, le temps de carême, le bon Dieu l'a voulu pour nous aider à nous recueillir. C'est un temps de recueillement, un temps de pénitence. Pénitence, vous savez ce que c'est, hein? On fait des sacrifices, on se renonce, on se prive de sucreries, on se prive un peu de ce que l'on s'accorde pendant le reste de l'année. Recueillement, c'est quoi le recueillement? Recueillir, c'est ne pas laisser avoir toutes sortes de pensées dans son esprit. Voilà. Pourquoi ce temps de recueillement et de pénitence? Eh bien, pour nous réveiller. On se réveille, comment on est déjà réveillé? Pour réveiller notre foi. Voilà pourquoi le bon Dieu veut ce temps de carême. Réveiller notre foi, mais on croit. Mais vous savez, il y a toujours une difficulté chez tout le monde. La difficulté, c'est de vivre selon ce que le bon Dieu nous a révélé. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, c'est croire ce qui nous a été enseigné. Par exemple, vous allez à l'école, la maîtresse vous dit qu'il y a eu, dans l'histoire suisse par exemple, il y a eu des batailles, que nos confédérés ont eu des difficultés avec les pays voisins. Vous croyez ce qu'elle vous dit ? Ça, c'est la foi qu'on appelle la foi humaine. Ou bien elle vous apprend les calculs, ou bien elle vous apprend les villages du Valais. Vous croyez ce qu'elle vous enseigne ? Ça, c'est la foi. Vous n'allez pas dire, non, peut-être qu'elle a tort, je vais aller voir si c'est vrai. Vous croyez ? Voyez ? C'est la foi. La foi humaine. Eh bien, le bon Dieu aussi nous a enseigné des choses et on croit. Voilà, ça c'est la foi surnaturelle, la différence. Eh bien, il faut toujours qu'on se rappelle. Eh bien, l'Église et le bon Dieu, par l'Église, chaque jour nous donne des lectures pendant ce temps de carême pour réveiller notre foi. Et aujourd'hui, eh bien, nous avions ces deux passages, un de Jérémie qui c'était un prophète qui a vécu longtemps avant la venue de Jésus. Et vous savez ce que c'est qu'un prophète ? Un prophète, c'est quelqu'un qui vient annoncer des événements futurs que seul Dieu connaît. Voyez, c'est ça un prophète. Mais pas seulement cela. Donc c'est un homme de Dieu qui rappelle aux gens, attention, qui aussi vient réveiller la foi aux gens. Et vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il a dit Jérémie aujourd'hui dans cet épître ? Il dit, malheur aux hommes qui se confient dans les hommes, c'est-à-dire malheur à ceux qui ne pensent qu'aux choses d'ici-bas, qui ne s'occupent pas des choses d'en haut, c'est-à-dire malheur aux hommes qui n'ont pas la foi. Alors il donne un exemple, il dit, eh bien ils seront comme une terre déserte, comme des bruyères, ces arbres qui poussent dans le désert, qui sont secs parce qu'il n'y a pas d'eau. Voyez. Ils sont comme une terre salée où personne ne veut habiter. Voilà ce que sont les hommes qui n'ont pas la foi. Puis après il dit, heureux les hommes qui mettent leur confiance dans le Seigneur. C'est-à-dire les hommes qui ont la foi. Ils ressemblent à ces arbres qui sont plantés au bord des ruisseaux. Ce sont des arbres qui ont les racines qui vont un peu du côté de l'humidité et ils ont toujours, même si la sécheresse vient, les racines sont toujours abreuvées. Alors ils porteront le feuillage est toujours vert, ils porteront des fruits. Voilà à quoi ressemble l'homme qui a la foi, l'homme qui ne dort pas dans la foi. Et Jésus, eh bien lui aussi, nous donne un autre exemple, cet exemple que vous venez d'entendre dans l'Évangile. Je vous avais parlé de cela il n'y a pas longtemps au catéchisme. Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Jésus donne cet exemple en nous disant, attention, voilà deux hommes. Le mauvais riche, c'était pas un voleur. C'était pas un criminel. C'était pas quelqu'un qui trichait. C'était quelqu'un qui était intelligent, qui avait su profiter de son intelligence pour faire du commerce et pour s'enrichir. Donc il n'avait pas fait de mal en volant ou en trichant ou toute autre chose. Non, Jésus ne nous donne pas cet exemple. Mais seulement, il était mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il utilisait mal les richesses qu'il avait gagnées de par l'intelligence que le bon Dieu lui avait donnée. Est-ce que le bon Dieu n'aime pas les riches ? C'est pas vrai, le bon Dieu aime bien les riches. Le bon Dieu n'est pas contre les riches, c'est pas vrai qu'il est contre les riches. Cependant, les riches, pour être des bons riches, doivent savoir aussi penser aux autres. Ce mauvais riche, il était mauvais parce qu'il n'avait pas pensé à ce pauvre Lazare qui était là, qui aurait bien voulu manger un peu des miettes des festins de ce riche. Il s'habillait de vêtements faits de tissus précieux. Voilà, il vivait dans l'opulence, dans la grande richesse, tout ça, dans les grands festins. Bon, il volait personne, il faisait du mal à personne. Cependant, il ne pensait pas aux autres qui étaient dans le besoin. Le bon Dieu lui avait donné une intelligence, pas pour lui, pas pour qu'il soit égoïste et qu'il pense qu'à lui, mais pour qu'il fasse profiter aussi les autres, qu'il pense aux autres, qu'il fasse l'aumône. Voilà, pourquoi le bon Dieu permet qu'il y ait des riches, pour qu'ils fassent l'aumône. Et l'autre homme, eh bien, c'est ce pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, lui, eh bien, il avait pas eu de chance. Et puis voilà, il était malheureux, il était plein d'ulcères, il n'avait rien à manger. Il n'avait même pas la force de travailler tellement il était affaibli parce qu'il se nourrit, il n'avait rien à se nourrir. Quand on ne mange pas, on est tellement faible qu'on ne peut plus travailler. Il n'a plus d'énergie, il n'a plus de force. Alors il était là. Et puis, il aurait pu être un mauvais pauvre, hein. Il y a des mauvais pauvres. Comment ils sont les mauvais pauvres ? Les mauvais pauvres, ce sont ceux qui n'ont rien, mais qui se révoltent, puis qui volent. Alors ça, c'est des mauvais pauvres. Ils n'ont pas le droit de voler. Et ils n'ont pas le droit de se révolter non plus. Le pauvre Lazare, il n'a pas crié contre le riche. « Ouais, espèce de vieux mauvais riche, donne-moi à manger, tu dois me donner à manger. » Non, il n'a pas fait comme ça, Lazare. Vous voyez ? C'était un bon pauvre, et pas un mauvais pauvre. Le bon Dieu aime les pauvres aussi, mais il n'aime pas les mauvais pauvres. Il aime les bons pauvres. Et voilà que tous les deux meurent. Le pauvre Lazare meurt et le mauvais riche aussi, il meurt. Car tout le monde doit mourir. Alors le bon Dieu nous donne cette histoire pour nous faire comprendre, attention, ne suivez pas le mauvais riche qui n'a pas pensé au ciel, qui n'a pas pensé au bon Dieu, qui ne s'est pas occupé, qui n'avait pas la foi. Et bien voilà, qu'est-ce qui lui arrive, ce pauvre riche? Oui, on peut dire un pauvre riche, parce qu'il a perdu le ciel. Il a perdu le bonheur éternel. Et où est-ce qu'il est tombé ? En enfer. Où il souffre des souffrances terribles. Si terribles, quand il a vu Abraham avec Lazare dans le sein d'Abraham, il s'est écrié, « Oh, Père Abraham, envoyez Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau, puis qu'il me laisse tomber une goutte sur la langue. » Une goutte lui aurait fait tellement du bien. Une petite goutte, c'est pas grand-chose. Tellement il souffrait. Et Abraham lui dit, non, maintenant c'est fini. Toi, tu as eu beaucoup de bien quand tu étais sur la terre. Tu n'as pas su utiliser ces biens comme le bon Dieu aurait voulu que tu les utilises, comme le bon Dieu demande qu'on utilise les biens sur la terre. Ça, c'est encore quelque chose que le bon Dieu nous a révélé. Voilà, qu'on doit faire l'aumône quand on peut le faire. Voyez. Tu n'as pas fait cela, eh bien maintenant, tant pis. Tu n'auras pas la récompense, tu seras châtié pour toujours. Et Lazare, eh bien lui, il n'a rien eu, mais il ne s'est pas révolté, il n'a pas volé. Voilà, il s'est confié dans le bon Dieu. Il a espéré qu'un bon, un jour le bon Dieu s'occuperait de lui. Eh bien, le bon Dieu, maintenant, lui a donné la récompense pour l'éternité. Une éternité de bonheur. Voyez ? Alors, qu'est-ce que Jésus nous enseigne là ? Eh bien, qu'il ne faut pas penser qu'aux choses de la terre. Mais il faut penser au ciel. Nous sommes faits pour le ciel, pas pour autre chose. Un jour, nous allons tous mourir. Oh, dans 100 ans d'ici, plus personne ne nous sera sur la, ne sera sur la terre, à moins quelques exceptions. Mais dans 100 ans d'ici, certainement qu'il n'y a plus personne de nous. Moi, je serai mort, et la plupart de vous serez tous morts. Vous ne serez plus sur cette terre. Alors, où serez-vous? Est-ce que vous serez au ciel? Est-ce que vous serez en enfer? Alors, eh bien, c'est vous qui choisissez maintenant, mais pas après. Il y en a de ceux qui se disent, « Oh, faut pas se faire souci. Il paraît que le bon Dieu est bon, mais il est tellement bon qu'il ne peut, peut pas y avoir d'enfer. C'est pas possible, le bon Dieu est trop bon. S'il y a un enfer, le bon Dieu n'est plus bon. » Mais ceux-là, ils se trompent. Ceux-là, ils écoutent le diable qui vient leur tromper, leur dit des mensonges, comme il est venu tromper Adam et Ève, qui leur a raconté des choses fausses. Il les trompe. La preuve, c'est que le bon Dieu nous a dit comment c'était après. Il nous a révélé, il nous a enseigné. Comment on croit quand quelqu'un nous dit quelque chose? Comme vous croyez, par exemple, quand la maîtresse vous dit, eh bien, qu'il y a eu des batailles dans la Suisse, qu'il y a des villes que vous n'avez jamais vues encore, des petits villages de montagne que vous n'avez peut-être jamais vus encore. Vous croyez ce qu'elle vous dit? Eh bien, de même, on croit ce que le bon Dieu nous a dit. Et on sait, même si on n'a pas vu, si on ne connaît pas, on sait que après ce sera comme ça, et qu'il y a un enfer. Et pour ceux qui n'auront pas vécu comme le bon Dieu voulait, ceux qui n'auront pas eu la foi, qui n'auront pas vécu comme le bon Dieu a enseigné de vivre, eh bien ils iront en enfer, même si le bon Dieu est bon. Le bon Dieu est bon maintenant, et c'est parce qu'il est bon qu'il nous a enseigné tout cela. S'il n'était pas bon, il n'aurait pas enseigné cela, et puis on serait tous fait attraper, et on serait tous tombés en enfer. Mais comme il est bon, il nous dit non, faites attention. Après, il y a autre chose, il y a une autre vie qui durera toujours. Une vie bienheureuse ou une vie malheureuse. Alors, si vous voulez pas aller en enfer, ne suivez pas les mauvais exemples. Ayez une grande foi, confiez-vous dans le Seigneur, priez-le, faites votre devoir de chrétien et vous irez au ciel. Si vous ne faites pas cela, si vous faites comme les gens du monde qui veulent s'adonner à tous les plaisirs, qui ne veulent pas s'occuper du bon Dieu, qui vivent comme le mauvais riche, même qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui ne font pas de mal, mais ils vivent de leur... Les égoïstes, eh bien ceux-là, ils iront en enfer. Et puis voilà. Mais je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait de mal. Ah, mais tu n'as pas vécu comme le bon Dieu voulait. Mais comment il voulait? Ah, il fallait suivre ce qu'ont dit Moïse et les prophètes, ce que disent les prêtres. Oh, mais, comme avait dit le pauvre, le mauvais riche, envoyez Lazare chez mes frères, j'ai 5 frères qui vivent comme moi, mais envoyez-le, parce qu'ils continuent comme ça, ils vont venir ici en enfer. Qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Non. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire, ils ont l'Église, ils ont les prêtres. Mais ils ne les écoutent pas, ils se moquent des prêtres. Eh bien, tant pis. S'ils n'écoutent pas les prêtres, qu'ils ont les hommes que le bon Dieu a envoyés pour enseigner le chemin du ciel, s'ils ne les écoutent pas, bien, ils iront en enfer. Puis il n'y a pas d'autre solution. Terrible, hein? Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les prêtres. Ils se moquent des prêtres. Ils disent, oh, ça, c'est des personnages qui viennent nous faire peur. Mais il ne faut pas les écouter. Ils nous empêchent de vivre, de faire tous nos plaisirs. Alors, il ne faut pas les écouter. Ils diront ça. Eh bien, un jour, ils se trouveront en enfer avec le mauvais riche. Oui. Alors, voilà, il faut prier pour ces pauvres malheureux. Qu'un jour, ils aient la lumière de comprendre et de ne pas se laisser avoir comme ça. Ils sont sur le chemin de l'enfer. Quand ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Vous priez pour eux, pour que le bon Dieu leur donne la grâce, qu'un jour, ils puissent comprendre. Mais non, il faut quand même que je vive pour aller au ciel, et pour le reste, je vais tout laisser. Un jour, je vais mourir, je vais tout laisser, je ne vais même pas porter ma chemise avec moi. Oui, voilà. Prions-les, confions-les à la Sainte Vierge. Et nous aussi, eh bien, vivons de la foi. Vivons comme le bon Dieu nous demande de vivre, et pas autrement. Sinon, nous n'aurons pas la récompense. Alors demandons à la Sainte Vierge, demandons à tous ces saints qui sont au ciel et qui ont fait la même chose, qui ont suivi, qui ont vécu comme le bon Dieu voulait, et maintenant ils sont au ciel, bien heureux. Et qu'est-ce qu'ils nous diraient si on pouvait les entendre? Ils nous diraient, oh, mais si vous savez quel bonheur c'est au ciel, si vous savez la joie qu'on a au ciel, tout ce que vous pouvez souffrir sur la terre, c'est rien du tout à côté, c'est rien du tout. Alors ça vaut la peine, faites quelques pénitences. Priez, vivez comme le bon Dieu vous demande, vous verrez quelle récompense vous attend au ciel. Oui. Et si les damnés, on pouvait les écouter, on serait effrayés. Des hurlements. Il y a des hurlements dans l'enfer continuellement. Qu'est-ce qu'il dirait ? Malheur à moi ! Malheur à moi ! C'était si facile de me sauver. J'avais qu'à écouter. J'avais qu'à vivre comme le bon Dieu me demandait. J'écoutais tous les hommes et je croyais tout ce qu'on me disait. Puis j'ai pas écouté ce que le bon Dieu me disait. J'ai pas cru ce que le bon Dieu me disait. Malheur à moi ! Maintenant c'est fini. Terrible, terrible. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est pas nous qui faisons les choses. C'est le bon Dieu qui les a faites. Voilà. Alors prions bien pour ces pauvres pécheurs qui ne connaissent pas le bon Dieu, qui ne savent pas qu'ils sont en train de se préparer une éternité malheureuse. Oui. Et puis vivons comme le bon Dieu nous a demandé. Aimons le bon Dieu, aimons la Sainte Vierge, louons-les, prions-les tous les jours. Et ainsi, eh bien, il nous conduira sur le chemin du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si la Sainte Vierge nous apparaissait et qu'elle nous demanderait « Qui est-ce qui veut me faire plaisir ?» Nous lèverions tous le doigt et nous crierons tous « Moi, 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 moi !» Et c'est sûr, on voudrait bien faire plaisir à la Sainte Vierge, elle est tellement bonne, notre bonne maman du ciel. Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour lui faire plaisir ? Eh bien, vous savez qu'elle est déjà venue sur la terre plusieurs fois pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour lui faire plaisir. Est-ce que vous savez ce qu'on pourrait faire pour lui faire plaisir à la Sainte Vierge? Si on réfléchit, faire des sacrifices. Oui, c'est vrai que ça lui fait plaisir. Mais quel est le plus grand plaisir qu'on pourrait lui faire? Eh bien, c'est la prière du chapelet, la prière du rosaire. Et pourquoi le chapelet, le rosaire, c'est la prière qui lui fait tellement plaisir? Est-ce que c'est parce qu'elle nous l'a dit? Voilà, c'est pas compliqué. Et puis, justement, elle nous a indiqué dans le chapelet les plus belles prières qu'on puisse faire. Nous avons dans le chapelet un grand moyen. Elle nous a dit comment ce chapelet est puissant. Vous savez, autrefois, il y a une époque où il y avait des gens qui voulaient envahir notre pays pour nous faire croire à un faux Dieu. Alors ils s'étaient organisés et assemblés de nombreux navires pour envahir nos pays et faire adorer un faux Dieu. Alors, quand le pape a su cela, il s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça, il faut que l'on s'organise pour empêcher cela. Alors il s'est adressé à toute la chrétienté. Il leur a dit, il y a un grand danger qui nous menace, il faut que vous priez. Il faut prier le rosaire. Sinon, on sera envahi et on nous enlèvera notre religion. Alors on a réussi à réunir quelques navires, oui, passablement, mais bien sûr, ils étaient moins nombreux qui s'apprêtaient à venir dans notre pays. Et ils sont partis. Et pendant ce temps, il y avait des processions qui se faisaient à Rome. Les gens priaient le rosaire, ils suppliaient la Sainte Vierge de ne pas permettre que l'on perde cette bataille, sinon on allait offenser notre Seigneur, ce culte au faux Dieu qu'on allait nous imposer. Et il y a eu une victoire miraculeuse, voilà, grâce au rosaire. Et il y a eu de nombreux faits aussi où la Sainte Vierge nous a montré qu'elle exauce quand on prie le rosaire, quand on prie le chapelet. Voilà. Et les papes nous ont beaucoup encouragés à prier le chapelet. Ils ont dit, priez le chapelet tous les jours, il ne faut pas faire. Alors bien sûr, on n'aime pas tellement prier le chapelet. On doit toujours répéter ces « Je vous salue Marie » les uns après les autres. On est content que ça finisse. Et pourtant, c'est une grande prière. Comment est-ce qu'il faut faire pour que le chapelet soit moins pénible? Eh bien, voyez, il faut faire ce que la Sainte Vierge nous dit. Il faut essayer de méditer, de penser au mystère. Voyez, le chapelet, c'est la Sainte Vierge qui nous l'a donné et qui nous a donner les méditations à faire. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est compliqué ça? C'est pas compliqué. C'est réfléchir. C'est essayer de se faire un film. Par exemple, voyez, on a trois mystères. Les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Dans les mystères joyeux, on médite Jésus, l'enfance de Jésus. Et les mystères, la naissance de Jésus. C'est pas difficile. Par exemple, quand vous dites les « Je vous salue Marie », de la première dizaine du mystère joyeux, vous méditez l'Annonciation, c'est pas difficile. Tout en disant les Je vous salue Marie, vous essayez de vous représenter, voilà, l'ange qui quitte le ciel, l'ange Gabriel, qui vient dans un petit village qui s'appelait Nazareth. Voilà, vous essayez de vous représenter, là il y a quelques petites maisons, et dans une de ces maisons, il habitait la Sainte Vierge. Voilà. Alors voyez, tout en disant vos Je vous salue Marie, vous essayez de vous représenter le film. Voilà, vous essayez de vous représenter l'ange qui vient vers la Sainte Vierge. Puis qu'est-ce qu'il dit l'ange à la Sainte Vierge? Eh bien, il dit ce que vous répétez souvent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et comment a réagi la Sainte Vierge? Elle a été étonnée, elle a été troublée. Pourquoi? Parce qu'elle voyait que l'ange lui adressait des louanges. Et comme elle était très humble, alors elle se méfiait. Comment? On adresse des louanges, c'est un drôle, c'est drôle. Est-ce que c'est le diable qui vient me flatter pour me tendre un piège? Alors elle lui a posé des questions, elle a dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je veux garder la virginité? Alors l'ange lui a expliqué, voilà, ça se fera comme ça. Le Très-Haut vous couvrira de son ombre. Voilà. Alors, elle s'est rendue compte que ce n'était pas le diable. Voyez? Alors, chaque fois que vous dites le Je vous salue Marie, eh bien, vous rappelez à la Sainte Vierge ces paroles que l'ange a adressées à la Très Sainte Vierge. Et ça lui fait chaque fois plaisir parce que ça lui rappelle ce que le bon Dieu a fait d'elle. Voyez? Il l'a choisie pour être la mère de Dieu. C'est pas compliqué de réciter le chapelet. Si vous arrivez à méditer, vous verrez, vous aimerez beaucoup le chapelet. Les enfants de Fatima, François, Jacinthe et Lucie, avant que la Sainte Vierge leur ait apparu, ils priaient bien sûr le chapelet, puisque leurs parents leur faisaient faire le chapelet tous les jours. Ils priaient, mais ils regardaient un peu les oiseaux voler, ils regardaient les mouches voler, tantin, ils se pinçaient un peu. Vous voyez, ils faisaient pas ça comme il faut. Mais une fois qu'ils ont vu la Sainte Vierge, et qu'ils ont compris combien cette prière faisait plaisir à la Sainte Vierge, alors ils ne disaient pas seulement un chapelet par jour, mais ils disaient trois chapelets tous les jours. Oui. Et puis avec quelle ferveur! Il ne fallait pas venir les déranger, il ne fallait pas les pincer les pieds quand ils priaient le chapelet ou le rosaire. Ils faisaient ça avec beaucoup de recueillement, pour faire plaisir à la Sainte Vierge. Eux, ils avaient compris, parce que la Sainte Vierge leur était apparue. Eh bien alors, nous aussi, il faut que quand nous prions le chapelet, nous le fassions avec ferveur, en méditant les mystères, ces jolis mystères de Jésus, les mystères de l'Annonciation, voyez, de l'Incarnation, Jésus qui est né. Pas difficile de méditer le troisième mystère joyeux. On médite la crèche, on se représente la crèche que nos parents font à Noël, on voit un peu les personnages, tout en disant les jours salut Marie, voyez. Voilà, c'est une excellente façon. Et puis, la Sainte Vierge promet de grandes grâces à ceux qui disent tous les jours le chapelet. Elle va s'occuper de nos âmes. Si nous disons le chapelet tous les jours, elle va s'occuper de nos âmes pour les rendre vertueux, pour nous faire progresser, pour nous sanctifier. C'est un tout grand moyen. Alors il faut que nous demandions. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire, le 7 octobre, justement pour rappeler la victoire navale qu'il y a eu à Lépante. Alors il faut que nous demandions à la Sainte Vierge, voilà, qu'elle nous aide à mieux prier nos chapelets, mieux prier nos rosaires, mais tous les jours, voilà. Pas quand le papa, la maman demandent de venir prier le chapelet, on dit, encore une fois prier le chapelet, on veut pas. Non, il faut qu'on aille volontiers, oui, pour faire plaisir à la Sainte Vierge, on va volontiers. Et puis on prie tout entier le chapelet, avec ferveur, pas en mâchant les mots, comme il faut, en méditant, surtout méditer. C'est pas difficile. Les mystères douloureux, c'est facile aussi. Vous connaissez tous la passion de Jésus. Jésus qui était au jardin des Oliviers, qui a tellement souffert en voyant tous les péchés que faisaient les hommes et que feront les hommes, il a transpiré du sang. Au lieu de transpirer de l'eau, c'est du sang qui est sorti à la place. Vous voyez? Tellement la souffrance était aiguë, voyez? Douloureuse. Voilà. Et les mystères glorieux nous font penser au ciel. Jésus est monté au ciel et il nous y attend. Il a préparé une place pour nous. Voilà, il faut penser à cela, tout en méditant, tout en récitant vos Je vous salue Marie. Alors, demandons cette grâce de prier tous les jours notre chapelet, jamais se coucher sans avoir dit un chapelet. Oui. Et puis, que nous ayons cet amour du chapelet. Voilà. Et alors, la Sainte Vierge nous protégera. Nous serons comme sous le manteau de la Sainte Vierge. Hein? Voilà. Demandons cette grâce les uns pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Est-ce qu'il faut prier pour les morts? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il faut vraiment prier pour eux? On n'a jamais été voir ce qui se passe après la mort. Et c'est vrai, on n'a jamais passé par là encore, puisqu'on est vivant. Hein? Cependant, on a quelqu'un qui nous a parlé de ce qui se passe après la mort, et c'est le bon Dieu. Il nous a dit, et vous le savez, vous l'avez appris par vos parents ou par le catéchisme. Le bon Dieu nous dit ce qui se passe après. Quand la mort vient, qu'est-ce qui se passe à la mort? L'âme quitte le corps et va être jugée. Et selon ce qu'elle aura vécu, elle ira soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer. Et puis, il y a aussi les limbes pour les enfants qui meurent sans avoir été baptisés. Oh, qu'est-ce qui se passe aux limbes? On ne sait pas exactement. Le bon Dieu ne nous a pas trop parlé de cela. Mais comme ils n'ont pas fait de péché personnel, ils ne peuvent pas aller en enfer. Et comme ils ont le péché originel qui n'a pas été effacé par le baptême, ils ne peuvent pas aller voir le bon Dieu. Ils ne peuvent pas non plus aller en purgatoire puisqu'ils n'ont pas fait de péché personnel. Alors, ils vont aux limbes. Quant aux autres qui ont été baptisés ou qui ont commis des péchés personnels, alors ils iront soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer. Pour ceux qui tombent en enfer, est-ce qu'on peut prier pour eux? On ne peut plus rien faire pour eux, c'est terminé. Même si on dit des messes pour eux, on ne peut plus rien faire. Mais seulement, on ne sait pas qui c'est qui est en enfer. Il y en a deux seuls qu'on sait qui sont en enfer. Caïn, qui a tué Abel, et Judas, qui a trahi Jésus, qui a livré Jésus. Voilà. Les deux-là, on sait qu'ils sont en enfer. Pourquoi? Eh bien, parce que le bon Dieu nous a dit, nous a révélé cela. Quant aux autres, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours prier pour les défunts. Même ceux qui n'ont pas été, des modèles sur la terre, il faut toujours prier, car on ne sait pas s'ils ont reçu une grâce, si peut-être pendant sa vie, quelqu'un a prié pour lui, et qu'à sa mort, il a reçu une grâce, qu'il a pu se sauver. On ne sait pas. Alors on prie. Et puis s'il était en enfer, si quelqu'un pour qui on prie est en enfer, les prières ne sont pas perdues. Elles serviront à d'autres qui sont en purgatoire. Et puis si la personne est au ciel, est-ce qu'elle a encore besoin de nos prières? Elle n'a plus besoin de nos prières puisqu'elle est au ciel. Mais on peut la prier et qu'est-ce qu'elle fait si on la prie? Eh bien, elle obtient des grâces auprès du bon Dieu. Comme elle est au ciel, elle est auprès du bon Dieu et elle peut nous obtenir de grandes grâces, d'abondantes grâces. Cependant, pour ceux qui sont en purgatoire, alors il faut prier. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont en purgatoire? Oh, vous savez, il y en a beaucoup qui vont en purgatoire. Et on passe presque tous par le purgatoire. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Il y avait le papa de Saint Louis Bertrand. Le papa de Saint Louis Bertrand était fervent. Quand il était jeune homme, avant de se marier, il avait voulu entrer dans un monastère. À la Chartreuse. Et là, vous savez que la vie est très dure. Ils parlent très peu, ils sont presque souvent seuls. La vie est très austère. Et puis, le supérieur l'a accepté, il a commencé à faire son noviciat. Mais une nuit, Saint Vincent et Saint Bruno qui lui sont apparus. Et lui ont dit, non, tu sais pas pour toi la Chartreuse. « Oh, mais moi, je voudrais me donner au bon Dieu, je voudrais servir le bon Dieu, j'aime le bon Dieu, je voudrais donner toute ma vie pour le bon Dieu. » On leur dit, « Non, toi, tu dois retourner dans le monde et tu dois te marier. »« Ah, oh, mais je voudrais... » »« Non. » Alors, il a hésité, il aimait tellement rester là pour servir le bon Dieu, il voulait se donner à lui. Et ils sont revenus, Saint Vincent et Saint Bruno, lui sont apparus de nouveau, ils ont dit, « Non, pas la peine, faut pas rester, c'est pas la volonté du bon Dieu. » Si tu veux faire plaisir au bon Dieu, retourne dans le monde et marie-toi. Ah. Alors, comme il voulait servir le bon Dieu, il voulait faire plaisir au bon Dieu, il s'est dit, bon, si c'est vraiment la volonté du bon Dieu, alors il est sorti, il s'est retrouvé avec beaucoup de peine. Mais pour faire la volonté du bon Dieu, il a accepté. Et il s'est marié. Ils ont eu un fils qui s'appelait Louis Bertrand, qui est devenu Saint Louis Bertrand. Parce qu'ils l'ont bien formé, ils lui ont donné une bonne éducation. Et à l'âge de 17 ans, Louis Bertrand est entré chez les Dominicains. Il se fait religieux. Alors les parents, bien sûr, étaient contents d'avoir un fils, lui qui aurait tant voulu être religieux, et le papa, il n'a pas pu, alors son fils était religieux. Et après quelques temps qu'il était entré chez les Dominicains, voilà que le papa tombe gravement malade, si bien que les supérieurs de Saint-Louis Bertrand lui ont permis de retourner à la maison pour aider le papa à bien mourir. Alors, il a mis tout son cœur pour aider, pour lui faire faire des actes d'amour, pour faire des prières, pour se préparer à paraître devant Dieu. Quand le papa est mort, le fils s'est dit, « Ah, ben au moins je suis content pour lui. » Il a pu bien se préparer à la mort, il a pu faire des actes d'amour, il a pu faire des actes de conformité à la volonté du bon Dieu, des choses tout à fait agréables. Alors après sa mort, ils ont prié un peu, et puis ils se sont dit, « Maintenant, il est certainement au ciel. » Comme il est mort là, il est certainement au ciel. Alors, ils ont moins prié, ils ont plus pensé, ils priaient aux autres pour les autres âmes du purgatoire. Une nuit, le papa est apparu à Saint-Louis Bertrand, il lui a dit, « Tu m'as oublié, je suis dans ce purgatoire, je souffre terriblement, tu ne me pries plus pour moi, tu m'as oublié, moi qui me suis tant occupé de toi. » Et il a vu un peu l'état de son papa dans le purgatoire et les gémissements, les plaintes qu'il faisait. Ça l'a tellement fait souffrir qu'il a failli mourir. Il n'en revenait pas. Il s'est dit, mais comment? On a cru qu'il était mort comme un saint, tellement il a fait une belle mort, et il était encore en purgatoire. Alors depuis ce jour-là, il s'est mis à prier. Et avec quelle ferveur, il jeûnait plusieurs fois en mangeant qu'un morceau de pain et en buvant qu'un peu d'eau pendant la journée. En faisant pénitence, il faisait des prières, il suppliait le bon Dieu des grâces pour délivrer son papa, il faisait dire des messes, il disait lui-même des messes pour son papa. Et ça a duré 8 ans pour que son papa soit délivré du purgatoire. Alors vous savez, hein, 8 ans après, son papa lui est apparu en le remerciant, en disant « Merci, maintenant je suis délivré grâce à ses messes, grâce à ses prières, grâce à tout cela. » Eh bien, maintenant que je suis au ciel, je ne t'oublierai pas. Je vais intercéder pour toi auprès du bon Dieu pour t'obtenir des grâces. Et il est devenu Saint Louis Bertrand. Voyez. Voyez, mes enfants, hein, comme quoi hein, le purgatoire, on n'y échappe pas facilement. Il n'y a que les saints, ceux qui meurent vraiment en grand saint, qui vont directement au ciel. Mais ils sont très très rares. Alors, il nous faut prier pour ces âmes purgatoires. Il ne faut pas les oublier. Toujours prier pour eux. Et d'ailleurs, une des plus grandes consolations, une des plus grandes aides qu'on peut apporter aux âmes purgatoires, c'est le saint sacrifice de la messe. Voilà. Le saint sacrifice de la messe vaut beaucoup plus que des rosaires. Et je vous l'avais déjà expliqué pourquoi. Eh bien, parce qu'on offre à Dieu le sang de Jésus. Le sang qui efface tout. Qui a une grande puissance. Il y avait en Allemagne un qui s'appelait le bienheureux Henri Suzeau. Il étudiait à Cologne. Il était entré chez les Dominicains. Et puis, ils entendaient bien avec un autre religieux, puis ils se sont dit, écoute, le premier d'entre nous qui va mourir, eh bien, celui qui restera promet, s'engage de dire des messes tous les lundis et tous les vendredis pour celui qui est décédé. On est d'accord ? On est d'accord, marché conclu. Alors, celui qui restera, il priera pour le premier qui meurt. Et voilà que le compagnon d'Henri Suzeau meurt. Alors au début, bien sûr, Henri Suzeau tient ses promesses. Tous les lundis, tous les vendredis, il dit les messes pour lui. Et puis, dans toutes ses prières, dans tous ses chapelets, il prie aussi pour lui. Il inclut cette intention. Et puis au bout d'un certain temps, il a commencé un peu à négliger. Voilà, maintenant, bon, je priais déjà pas mal pour lui. Certainement qu'il est au ciel, c'était un religieux. Voilà, il priait un peu moins. Et son compagnon lui est apparu une nuit. Il lui a dit, tu m'as abandonné, tu m'as négligé. Qu'est-ce que tu fais? Alors le bienheureux Jésus dit, mais je ne t'ai pas oublié, tu sais bien, toutes mes prières, elles sont aussi faites pour toi, je t'inclus dans toutes mes prières. Et il dit, ça ne suffit pas. Voilà. Il faut que tu entendes des messes et que tu célèbres des messes pour moi, car seul le sang de Jésus-Christ peut me délivrer de ce purgatoire. Pourtant, il priait pour lui, ça ne suffisait pas. Il avait besoin des messes. Alors voilà. Mais comment faire pour que la messe puisse aider les âmes du purgatoire? Si on est là à la messe et puis qu'on reste assis et puis on rigole, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde les camarades, bon, est-ce que ça portera des fruits? Ça ne portera pas des fruits. C'est dommage. Les âmes purgatoires qui attendent de nous une prière, qui attendent qu'on les sauve, qu'on les délivre de ce feu terrible, et nous, on est là, bon, oh oui, on est là, bon, on ne fait pas attention. Quel dommage. Aïe, 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 si on pouvait les entendre gémir, mais on tremblerait d'effroi. Combien nous supplient, mais qu'on prie pour elles, combien nous supplient. Voilà, alors il nous faut prier bien. Et puis, vous savez, les messes qu'on dit pour les morts, elles sont puissantes, mais elles n'ont pas autant de valeur que les messes que l'on entend pendant notre vie. Toutes les messes qu'on aura entendues pendant notre vie, nous seront beaucoup plus de valeur que les messes qui seront célébrées pour nous quand on sera en purgatoire. Oui. Voilà. Alors, nous allons bien prier pour ce monsieur que le bon Dieu a rappelé. On ne sait pas. Oh, il est certainement encore en purgatoire. Hein, parce que qui sait qui va directement au ciel sont très très rares. Alors, il faut que nous le prions pour lui, avec application, en faisant bien attention à ce qui se passe à la messe. Et puis, quand le prêtre aura consacré l'hostie et le calice, eh bien, il nous faudra offrir à Dieu. Ô Père éternel, je vous offre le très précieux corps, sang, âme, divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pour vos plus grandes gloires, pour cette pauvre âme qui est décédée. Voilà, et pour toutes les âmes purgatoires, il faut les inclure aussi. Voilà, demandons à la Sainte Vierge que nous ayons aussi, que nous pensions souvent aux âmes purgatoires. Et tout ce que nous ferons maintenant pour les âmes purgatoires, quand nous serons en purgatoire, ceux qui prieront pour nous, nous recevrons les prières. Mais si nous ne faisons pas trop de cas des âmes purgatoires, quand nous serons en purgatoire, puis que les autres prieront pour nous, le bon Dieu ne nous donnera peut-être pas les prières. Il les donnera peut-être à d'autres âmes. Oui, c'est arrivé ça. Ceux qui n'ont pas profité des messes, qui ont mal assisté aux messes, quand on priait pour eux, qu'on offrait des messes pour eux, les messes n'allaient pas pour eux, ça allait pour d'autres. Et ils devaient rester des années en plus en purgatoire. Vous voyez, c'est terrible, hein, il faut y penser. Alors, demandons à la Sainte Vierge de nous faire penser à ces âmes purgatoires qui ont tant besoin de nous. Et quand elles seront au ciel, elles feront comme le papa du Saint Louis Bertrand et nous aideront à devenir des saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà donc arrivé, mes bien chers enfants, cette fête que vous attendiez et vous comptiez les jours, et depuis hier vous comptiez les heures. Qui vous séparait de cette fête? Et voilà ce moment venu, ce moment tant désiré, en vue duquel vous avez été préparé par une longue série d'instructions, de prières, de sacrifices, d'efforts généreux. Vous avez cherché à embellir vos cœurs pour offrir à Jésus un jardin fleuri. Et ces fleurs, eh bien, ce sont les sacrifices que vous avez faits tous ces derniers temps et que dorénavant vous ferez tous les jours pour que chaque fois que Jésus vienne, il y rencontre ce beau jardin fleuri où il se plaira à venir. Dans quelques instants, vous allez approcher de cette sainte table, de ce banquet divin où vous recevrez le pain des anges. C'est-à-dire, vous recevrez celui que les anges contemplent au ciel. Quel bonheur! Recevoir la même nourriture, les anges au ciel, que font-ils? Ils contemplent Dieu, et de la contemplation de Dieu, ils sont remplis. Ils n'ont rien besoin d'autre. Eh bien, vous allez recevoir celui que les anges contemplent au ciel. et vous vous y êtes préparé. Vous avez revêtu ce petit habit blanc aujourd'hui qui représente la pureté de votre cœur que vous présentez aujourd'hui pour recevoir Jésus. Non seulement il y a des fleurs, mais il est propre. Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de péché. Tout a été effacé hier par le sacrement de la pénitence, ce merveilleux sacrement de la confession. Mais aussi, il y a quelqu'un d'autre qui s'est réjoui de cet instant. Et c'est Jésus. Lui, depuis très longtemps, il se réjouissait de ce jour pour pouvoir venir dans vos âmes. Oui. Et si nous pouvions voir la joie du bon Dieu en ce jour, de pouvoir se communiquer à vous, bien nous mourrions de joie. Notre cœur ne pourrait pas supporter, il éclaterait d'amour pour Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez essayé d'apprendre à connaître celui que vous recevrez, ce Jésus. Et donc, à partir de cette fête de la très sainte Trinité, tout particulièrement, vous recevrez Jésus souvent, tous les dimanches, car vous le savez, le dimanche, le chrétien est obligé d'aller à la messe sous peine de péché mortel. Pourquoi l'Église a demandé cela? Pourquoi l'Église a imposé cela? Eh bien, parce que la messe, comme vous le savez, nous offrons à Dieu, le Père, ce qu'il a de plus précieux, ce qui lui fait le plus plaisir. Et vous le savez, qu'est-ce qui fait le plus plaisir au bon Dieu? C'est de lui offrir son Fils. Son Fils s'est offert déjà sur le calvaire, le Vendredi Saint. Mais il s'offre chaque jour sur l'autel à la messe. Et donc, par l'assistance à la messe, nous offrons à Dieu le Père ce plus beau cadeau qu'est son Fils chéri, son Fils unique, celui en qui il trouve toutes ses complaisances. Et qu'est-ce que ça doit être? Celui en qui Dieu le Père, cet être infini, qui trouve toutes ses complaisances. Mais qu'est-ce qu'il faut pour contempler, pour contenter Dieu le Père? Il faut l'infini. Eh bien voilà, ce Fils Jésus, il est infini puisqu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous avons cette belle fête de la très sainte Trinité qui est la source de toutes les miséricordes de Dieu pour nous. Depuis le dimanche de l'Avent jusqu'à aujourd'hui, nous avons contemplé les miséricordes de Dieu vis-à-vis des créatures, l'incarnation où le Fils de Dieu s'est fait homme, est venu sur la terre pour nous. Il s'est donné de la peine pour nous. Puis nous avons contemplé notre Seigneur qui s'offre à son Père, à la Passion, puis la Résurrection, et aussi la Pentecôte, qui est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient pour sanctifier nos âmes, qui vient, lui, nous former, nous rendre semblables, en quelque sorte, à notre Seigneur Jésus-Christ, l'imitant dans toutes ses vertus. Et si l'on réfléchit un peu, on ne peut pas ne pas être émerveillé de voir toute la peine que Dieu s'est donnée pour venir jusqu'à nous. Il y a des siècles qu'il attend pour pouvoir se communiquer à chacune de nos âmes. Pour nous, il a quitté, si on peut le dire ainsi, il a quitté le palais du ciel, la compagnie de Dieu le Père. C'est une manière de parler à notre langage, car c'est aussi un mystère que cette union hypostatique, cette union de la nature divine avec la nature humaine. Il est descendu sur la terre et il s'est humilié. Lui, cet être infini, c'était ce pur esprit, cet être éternel qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il a revêtu notre pauvre nature humaine avec toutes ses faiblesses, hormis le péché. Il a été soumis aux nécessités de devoir manger, de devoir se soigner, de devoir se vêtir. Il a été soumis à la fatigue, à tout ce que nous connaissons ici-bas, hormis bien sûr le péché. Il a voulu cela pour nous. Et quand il est venu, il n'a même pas trouvé une maison pour lui, pour l'accueillir. Il a dû se réfugier dans une grotte où on mettait du bétail. Ça nous dépasse. Le génie de Dieu. Le génie que Dieu a déployé pour notre rachat, pour notre rédemption. Et aussi pour nous, il a travaillé sans relâche. Il n'a pas perdu un instant. À peine était-il né, ça y est, il a été persécuté. Il a fallu fuir en Égypte. Il a connu la misère, la famine, le voyage pénible. Ensuite, à peine était-il installé en Égypte, qu'il a fallu tout quitter et repartir à Nazareth. Ça n'a pas été rien. Le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il s'est choisi comme vie? Il aurait pu se choisir une vie autre que celle-là. Eh bien non. Pour essayer de toucher nos cœurs endurcis, il a voulu passer par là. Et ce n'est pas tout. Pour nous, ce qu'il a souffert, il a voulu endurer cette passion. Il a voulu être cloué sur cette croix. Car c'est de cette croix que tous les bienfaits nous viennent. Et la Sainte Eucharistie nous vient aussi de ce Saint Sacrifice de la Messe, de ce Saint Sacrifice du Calvaire, qui est renouvelé chaque jour à la Messe. Il a voulu passer par là pour se donner à nous dans cette petite hostie. Pour nous, il a peiné. Il a souffert tout ce qu'on peut souffrir sur la terre, et bien plus encore. Plus qu'aucun homme ne peut souffrir. Il a été traité de scélérat, lui le Fils de Dieu, celui qui a été annoncé depuis 4000 ans. Il a été traité de scélérat. Tout le monde était contre lui. Une petite minorité était pour le soutenir, mais qu'est-ce à comparer de tout le monde? Il a été condamné par qui? Imaginez cela, par les autorités religieuses. Oui. Ceux qui ont été établis comme prince des prêtres par Dieu lui-même, eh bien, il a été rejeté par les autorités religieuses. Saint Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Imaginez des parents qui rentrent chez eux et qui ne sont pas reçus, ils sont chassés par leurs enfants. Eh bien, c'est ça qu'a connu notre Seigneur pour nous. Tout cela, il l'a fait, ne l'oublions pas, pour nous, car il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Que nous nous sauvions, que nous nous damnions, ça ne change rien en Dieu. Que l'on soit au ciel ou en enfer, pour Dieu c'est la même chose. Car on ne peut pas, nous, augmenter la gloire de Dieu, qui est une gloire infinie. Qu'est-ce que les créatures peuvent ajouter à l'infini? Et donc tout ce qu'il a fait, c'est vraiment pour nous. Pour nous aussi, il est ressuscité. Monter au ciel pour nous préparer une place. Il nous a ouvert le ciel par son ascension. Tous ces justes de l'Ancien Testament sont entrés dans le ciel. Et nous avons contemplé tout cela tout au long de ces fêtes que nous venons de célébrer. Ces événements que je viens de vous retracer se sont passés il y a bientôt 2000 ans. Mais ils sont toujours actuels. Notre Seigneur n'a pas voulu laisser qu'un vague souvenir, mais il a voulu que chaque jour, nous puissions revivre ce qu'ont vécu les apôtres autrefois. Bien sûr, nous ne voyons pas notre Seigneur comme eux l'ont vu, mais nous avons plus de chance qu'eux. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous voyons quoi? Une petite hostie. Nous recevons tous ces sacrements, mais nous ne pouvons pas percevoir grand-chose avec les yeux, avec nos sens. Mais notre foi nous dit qu'il y a des miracles qui se réalisent à travers ces signes que sont les sacrements. Pourquoi notre Seigneur a donc fait tout cela? Pourquoi notre Seigneur s'est donné tant de peine pour nos âmes? Eh bien, comme vous le savez, parce qu'il nous aime d'un amour gratuit, et non pas d'un amour désintéressé, ni d'un amour égoïste, mais d'un amour de bienveillance. Il veut notre bonheur. Il veut nous rendre heureux, non pas pour quelques années sur la terre, c'est pas ça qui intéresse notre Seigneur, mais il veut nous rendre pour une éternité de bonheur. Qu'est-ce que l'éternité? On ne sait pas trop. On n'arrive pas à comprendre. Nos petites intelligences sont balbuties devant une pareille réalité. Mais si l'on peut prendre quelques exemples de comparaison, qu'est-ce que 100 millions d'années à comparer de l'éternité? Eh bien, 100 millions d'années, ça fait beaucoup. Depuis le début de la Terre, il n'y a même pas ça. Eh bien, 100 millions d'années, ce n'est même pas le commencement de l'éternité. L'éternité, il n'y a pas de temps, c'est un présent continuel qui ne finira pas. Eh bien, le bon Dieu va vous offrir un bonheur qui ne finira jamais. Un bonheur où il n'y aura pas de mal, où il n'y aura plus de déchirement, plus de disputes. Un bonheur que personne ne pourra nous ravir et que l'on ne perdra plus. Voilà. Eh bien, la Sainte Communion est le gage de notre vie éternelle, nous dit saint Paul. Par la Sainte Communion, nous nous attachons plus fortement à Jésus. Et comme Jésus qui est mort, ressuscité, monté au ciel, eh bien, si nous sommes attachés à Jésus, nous irons automatiquement au ciel, puisque lui est déjà entré dans le ciel. Et comme nous sommes attachés à lui, eh bien, nous irons aussi au ciel. Et la communion, eh bien, c'est cela. C'est cette union de notre âme avec notre Seigneur. C'est le gage de la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Voyez ? Donc, c'est un tout grand sacrement, un des plus grands sacrements que le bon Dieu nous a donné et qu'il faut savoir apprécier. Quels doivent être nos sentiments devant une telle réalité ? Que cette première communion soit aussi pour nous le rappel de notre première communion. Il faudrait que nos communions soient toujours en croissant, qu'elles soient toujours mieux faites que notre première communion. Car c'est toujours le même auteur, c'est toujours le même Seigneur que nous recevons. C'est toujours la même nourriture, c'est toujours le même pain des anges qui vient en nous. La très sainte et très auguste Trinité qui vient dans nous, qui vient en nous, pauvres créatures. Mais que sommes-nous pour un tel bonheur? Que sommes-nous pour que Dieu nous fasse un tel cadeau? Nous devrions être sans cesse en action de grâce. Et l'éternité entière ne suffira pas pour remercier Dieu de ses bienfaits. Plus nous essayons d'admirer, de contempler, d'approfondir ces réalités, ces mystères que Dieu a réalisés pour nous, plus on se sent ignorant, plus on se sent petit, et moins on trouve les mots pour s'exprimer. Dans quelques instants, eh bien, vous allez vous approcher de ce banc de communion. Préparez-vous encore et vous demanderez à la très sainte Vierge Marie, avant de vous approcher de cette table sainte, de venir en votre âme pour accueillir le divin Fils. Elle, que Dieu le Père a choisie pour nous donner le Fils. Il n'a pas voulu nous donner notre Seigneur sans passer par la très sainte Vierge. Eh bien, si notre Seigneur trouvera dans vos âmes la très sainte Vierge Marie pour l'accueillir, avec quelle joie il viendra. Ce sera le comble. Et puis aussi, n'oubliez pas votre ange gardien. Votre ange gardien n'est pas sans rien faire. Il est là avec vous. Il se réjouit aujourd'hui de ce que vous recevez, celui qu'il contemple chaque jour continuellement. De celui en présence duquel il se trouve. Le Créateur du ciel et de la terre, le Roi des rois, le Roi de l'univers. Eh bien, vous demanderez et à la Sainte Vierge et à votre ange gardien de venir encore peaufiner votre âme, pour que cet accueil soit encore mieux réussi. Et nous autres aussi, nous adressons nos prières à la très sainte Trinité, à la très sainte Vierge Marie, pour que ces cœurs si près reçoivent d'abondantes grâces, un jour contempler ce Dieu qu'ils auront reçu sur la terre, dans la petite hostie sous les apparences du pain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.